Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Bonsoir, c'est la rentrée de Cap Sport. Pour cette première émission de la reprise, nous mêlerons allègrement football et course à pied. En football, nous nous pencherons sur l'initiative très intéressante et même peut-être inédite d'un club de deuxième ligue de Châteloise, l'AZ Audax Frioul. Son comité est formé de 7 joueurs de la première équipe. En invité, son président-joueur, Dylan Crianza. Neuchâtel Xamax FCS, lui, joue demain à Berne contre le champion de Suisse en titre Young Boys. Un sacré défi pour le néo-promu de Super League. On en parle avec notre journaliste Jean-Paul Pitchy. Et en course à pied, le mode est au trail, comme celui de Moutier. Demain, une compétition de plus dans un calendrier qui devient pléthorique. Mais qu'est-ce qui fait l'attrait de ces courses? Organisateur du Swiss Canal Trail, Patrick Christina, en connaît un bout sur la question. Bonsoir, l'AZ Audax Frioul est un club de football à consonance italophone bien implanté sur le littoral neuchâtelois. Il milite donc depuis de nombreuses années en deuxième ligue. Mais comme beaucoup d'autres associations sportives, et cela ne concerne pas que le football, les bénévoles manquent souvent pour assurer la gouvernance et la pérennité de la société. Pour gérer le club, l'AZ Audax Frioul a opté pour une solution intéressante, inédite même peut-être, et audacieuse, peut-on par exemple lire dans le communiqué du club. Son comité est formé de 7 joueurs de la première équipe. Nous recevons donc aujourd'hui son président joueur, Dylan Crianza. Bonsoir tout d'abord.
Bonsoir Marcel.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Dylan Crianza. La première question que l'on se pose immédiatement, qu'est-ce qui a conduit l'AZ Audax Frioul vers ce mode de gestion quand même un tout petit peu inhabituel?
Je dirais qu'après 30 ans passés à la direction ou à la tête du club, l'ancien président Marco Torelli avait envie d'insuffler un souffle nouveau, un nouvel élan, instaurer une nouvelle dynamique. On a eu l'occasion d'échanger avec Marco Torelli à plusieurs reprises. J'ai pu discuter avec des joueurs du club et petit à petit, il y a un noyau qui s'est formé. Ce noyau, on a eu l'occasion de le développer et gentiment, on voit un arbre pousser, qui est le nouveau comité de l'AZ Audax.
Alors ce changement radical est intervenu lors de l'Assemblée Générale du 26 juin dernier. Après 10 ans de présidence, vous l'avez dit, 30 ans d'engagement, hein, Marco Torelli, c'est donc le flambeau à une bande de gamins, enfin des gamins, pas tout à fait, hein, pas tout à fait, Dylan, mais enfin, quand même, c'était sa volonté de céder le flambeau à des actifs. La démarche quand même est originale.
Elle est originale, on a évoqué le terme audacieux, ben, l'audace c'est un clin d'œil avant toute chose à l'AZ Audax, qui par définition est la traduction latine d'audacieux, mais c'est avant toute chose le fait d'une démarche volontaire qui vise à affronter des obstacles. Aujourd'hui, par la volonté de former un nouveau comité de jeunes joueurs, c'est cette démarche-là qu'on a mis en place, le fait d'aller de l'avant face à de l'adversité et d'affronter des problèmes, le tout en associant passion et travail. Et là, je pense qu'on est dans le juste.
Sans l'application toutefois de ces joueurs de la première équipe, le club, l'avenir du club était en péril, c'est votre avis?
Non, pas en péril, non. Mais il avait besoin de quelque chose de nouveau, comme tous les clubs, au bout d'un moment, ont besoin d'un renouvellement. Ce renouvellement, je pense qu'il arrive au bon moment.
À votre avis? C'est le mien en tout cas, mais c'est une démarche qui est intéressante.
Alors oui, très intéressante. On a eu énormément de retours positifs. Ces retours positifs, ils sont réjouissants. Ils nous disent qu'on est dans la bonne direction. Et cette direction, on a envie de la prendre à tous en même temps. Et on remarque que, ben, il y a des gens qui crochent au navire. Il y a des gens qui viennent toquer à la porte, qui viennent avec des canoës si je poursuis dans l'image du navire. Et on n'a plus qu'à tendre les voiles et aller de l'avant parce qu'on est en train de tirer ce bateau-là de l'avant.
Quel est l'âge de ces comitards? Ça, rien de péjoratif.
Alors, j'ai 26 ans, dans une quinzaine de jours, 27. Je suis le plus jeune du comité, on va jusqu'à 35 ans.
Et voilà, les autres ont dit, ben, c'est le plus jeune qui se tape la présidence. Quoi,
c'est un peu ça.
Alors, cette initiative, on l'a dit, elle nous paraît intéressante parce que le joueur lui-même hein, s'implique vraiment dans la vie du club. Les footballeurs, dans les ligues inférieures aussi, parfois on les traite d'enfants gâtés, à tort ou à raison d'ailleurs. On change de club pour gagner quelques centaines de francs, même dans les ligues inférieures. Dans le cas d'AZ Audax Frioul, donc les joueurs se rendent automatiquement plus concernés par la vie de leur société. Ça aussi, c'est important.
On espère. On a envie de les impliquer, on a envie de les fédérer. On sait que l'AZ Audax est un des rares clubs à détenir une histoire qui est magnifique. Cette histoire-là, ben, c'est l'histoire d'un livre qui s'est écrit au fur et à mesure des pages. Ces pages-là, aujourd'hui, on est en train de les poursuivre, on est en train de les écrire à notre manière, et on a envie que chaque personne qui est dans le club, qui participe à la vie du club, nous aide à écrire ces histoires, ces lignes, pour que le club ou les histoires de l'AZ Audax, on puisse à notre tour les lire à nos petits-enfants.
Voilà, un club, à l'origine, qui était un club formé par des travailleurs italiens, des émigrés italiens qui étaient arrivés en Suisse. Cette consonance italienne, elle a encore son importance ou c'est pas forcément ça l'essentiel?
Elle est toujours dans les traits, dans les piliers du club. On le voit dans le logo, il y a toujours les couleurs du drapeau vert, blanc, rouge. Mais aujourd'hui, c'est un club qui appartient à tout le monde. On a tout autant des Italiens, des Suisses que des personnes de toute autre origine. C'est avant tout, aujourd'hui, un club de la ville.
De la ville de Neuchâtel, donc fidéliser ses joueurs. Ça aussi, ça nous paraît important parce qu'on a un peu l'impression aussi que cette identification au club, à son club de village, elle se perd quand même.
Elle se perd, effectivement. Et je pense que plus on gravit les échelons au niveau footballistique, plus les clubistes disparaissent. Après, c'est cohérent dans la mesure où l'aspect compétition entre en ligne de matière. Et il y a cet équilibre à trouver entre amitié, fun, rigolade et compétition, objectifs sportifs et ambitions.
Ce n'est possible quand même, cette gouvernance formée, donc on l'a dit, le comité formé de 7 joueurs de la première équipe, ce n'est possible que dans les clubs amateurs.
Je ne pense pas, mais plus on va de l'avant, plus il y a une nécessité de professionnalisation. Il y a une nécessité du coup d'être formé, d'avoir les compétences et de manager le club qui devient une entreprise concrète.
On l'a dit, fidélisation, parce que tout de même, lorsqu'on veut changer de club, vous-même par exemple, ça deviendrait difficile de se dire à la fin de la saison, ben, je veux changer de club.
Évidemment, mais je n'ai jamais eu envie de changer de club. Je pense qu'à notre niveau, l'Asie Audax, le club et les gens qui sont là autour ont mis tout en œuvre pour qu'on se sente comme à la maison. Ça, c'est un avis qui est personnel, mais qui est partagé par les gens qui sont aujourd'hui dans le club. On remarque que ce vent nouveau qui a été amené par le nouveau comité va dans cette direction-là. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent toquer à la porte, qui veulent participer à ce projet, et on se dit que là, on est dans le juste.
On se dit à nouveau que la démarche est intéressante parce que la gouvernance de la société est assurée principalement par des jeunes. Vous l'avez dit, ce ne sont pas des anciens membres de comité qui sont là depuis 10, 15 ou 20 ans, même plus parfois.
Effectivement, après, rien contre les plus anciens qui sont ici parce que c'est eux qui ont amené les clubs, les équipes, là où elles en sont aujourd'hui. Ils ont posé les fondamentaux des clubs et aujourd'hui, nous, on profite de cette expérience. On a soif d'apprendre, donc on boit volontiers leurs bons conseils et on essaye, nous, d'amener notre dynamisme et les nouveautés comme une certaine implication et une visibilité plus importante sur les réseaux sociaux.
Dylan, précisément, qu'est-ce que des jeunes pourraient apporter ce nouveau dynamisme, un nouvel élan?
Un nouvel élan, clairement. On peut le voir et je peux vous encourager à suivre nos comptes sur Facebook et Instagram. On va aussi le voir au travers d'événements. Aujourd'hui, historiquement, l'Asie Audax avait un stand à la fête des vendanges. Ce stand a disparu car il y avait une difficulté de trouver des bénévoles. Cette année, le stand, il va renaître.
Mais ça veut dire que ce week-end-là, la première équipe ne va pas forcément être brillante, quoi.
Elle va jouer le mercredi qui précède.
Donc ça, c'est déjà planifié. Dans les faits, comment cela fonctionne-t-il? C'est quand même pas surmontable. C'est sûr de diriger un club de deuxième ligue, mais toutefois, comment cela fonctionne-t-il dans les faits? Il y a du job, il y a du travail.
Il y a beaucoup de travail. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est 7. Nous sommes 7 à se répartir le travail. Donc on arrive à concilier cet équilibre sportif par rapport à ce qu'on a et qu'on doit mettre en œuvre pour respecter les engagements qu'on a vis-à-vis du club, l'équilibre familial et l'équilibre professionnel. Et en fonction de nos disponibilités, du temps qu'on peut mettre à telle période de l'année, on se répartit le travail et puis chacun assume les tâches avec lesquelles il est à l'aise et qui peut réaliser en fonction de ses disponibilités.
La question que l'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir conflit d'intérêts sur le terrain vis-à-vis, par exemple, de l'entraîneur? Est-ce que Dylan Crianza va jouer au Christian Constantin et intervenir dans les vestiaires?
Christian Constantin, c'est une image qui fait sourire, mais non, pas du tout. On a, dès la première rencontre et l'officialisation de notre entrée au comité, on a mis les choses à plat dans le vestiaire en indiquant que dans notre vestiaire, il n'y a qu'un patron et c'est le coach. Le coach, il lance le bâton et nous, on va le chercher. Et s'il nous dit assis, on s'asseye sur le banc et on essaye de ne pas aboyer.
Donc il est important de répartir convenablement les tâches et les fonctions et d'être très transparent à ce propos.
C'est essentiel même. On a cette nécessité pour atteindre chacun les objectifs qu'on s'est fixés. Si on fixe des objectifs au coach et qu'on intervient dans cette réalisation, il n'aura pas la mesure d'appliquer les tâches ou bien de mener les actions qu'il voulait réaliser.
Mais en cas de difficulté sportive, est-ce que tous ces bons sentiments ne risquent-ils pas de se craqueler?
Comme dans tout club, dès qu'un objectif n'est pas atteint. Ça, c'est évident, ça se passe dans le cadre professionnel, mais dans le cadre personnel et dans le cadre sportif, inévitablement.
Dylan Crianza, bonjour, à Zio Dax Frioul. Le championnat de deuxième ligue de Châteloise reprend ce week-end. Alors un petit mot, quel est le premier match au programme?
Le premier match, on joue ce dimanche à la Chaux-de-Fonds contre le FC Étoile à 14h30. On peut vous inviter à venir et surtout on aimerait que vous reteniez la date du 1er septembre, 18h à Pierre-Rabaud, qui sera notre premier match à domicile.
Et les ambitions du club, quelles sont-elles, entre parenthèses?
Alors, on joue pour gagner, ça c'est une évidence. Si on gagne tous les matchs, on gagnera le championnat. Aujourd'hui, on connaît aussi nos forces et nos faiblesses, donc on tempère un petit peu cette ambition et on se dit, on veut être en deuxième ligue, on veut jouer le haut du classement quand même.
Dylan, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On va vous laisser parce que le président doit aller s'entraîner, c'est exact.
C'est exact et je suis déjà en retard, je payerai mon amende comme tous les autres joueurs qui sont en retard.
Merci d'être venu dans nos studios, au revoir.
Au revoir Marcel.
Cap Sport.
Et oui, Cap Sport, c'est tous les vendredis de 18h30 à 19h, le magazine de la rédaction sportive. On reste dans le football en compagnie de notre journaliste Jean-Paul Picci, qui aura le plaisir de commenter demain au Stade de Suisse la rencontre de la 5e journée du championnat de Super League entre Young Boys et Neuchâtel Xamax FCS. Jean-Paul, bonsoir.
Bonsoir Marcel.
Donc c'est un sacré défi hein, pour le néo-promu. Neuchâtel Xamax FCS va donc défier le champion de Suisse en titre dans son antre demain dès 19h. Le club rouge et noir n'aborde pas forcément cette rencontre dans les meilleures dispositions qui soient. En championnat, il reste sur deux défaites, l'une 3-0 à Sion et l'autre plus mortifiante à domicile contre Thun 5-1. La Vaux Populi s'accorde à dire que le petit pousset xamaxien va se faire manger tout cru par le champion de Suisse. Jean-Paul, c'est aussi votre avis?
Voilà, c'est peut-être ce que craignent les plus pessimistes, hein, mais j'ai pas forcément envie de faire partie de ceux qui pensent hein, que Xamax va prendre une casquette. Alors certes, oui, on va pas se mentir, hein, IB c'est très fort, ça va vite, c'est avec une grosse percussion offensive, de belles individualités, hein, Oaro, Ngameleu, Mbabou, Souleymane von Bergen, et j'en passe. Bon bref, tout ça, ça peut faire un peu peur, mais au final, Xamax n'a rien à perdre hein, contre le champion de Suisse. Et Mustapha Simonovic l'a affirmé cet après-midi lors de la conférence de presse. On y va pour prendre quelque chose. Et pour Michel Le Castel, eh ben, son équipe peut battre tout le monde. Mais il faut éviter les grosses erreurs défensives et individuelles. Alors oui, ça va arriver dans tous les sens. Hein. Xamax devra certainement faire le dos rond et laisser passer l'orage. Mais il faudra aussi continuer sur les principes hein, prônés par Michel Le Castel. Circulation du ballon, y croire, aller jusqu'au bout et se montrer efficace. Et puis se dire, peut-être que Young Boys a aussi des lacunes, hein, notamment peut-être défensives, avec des latéraux très offensifs qui délaissent parfois un peu leur couloir. Et on l'a vu hein, d'ailleurs lors de la légalisation du Dynamo Zagreb mercredi soir. Donc pourquoi pas espérer un résultat, surtout que ce match arrive peut-être au bon moment.
Oui, justement Jean-Paul, le principal argument xamaxien a peut-être trait, c'est notre avis, au calendrier de Young Boys, pour qui ce match de championnat est programmé entre deux rencontres de barrage pour la Ligue des Champions, vous l'avez dit, face à Dynamo Zagreb. Young Boys a fait match nul, un partout mercredi, il tient absolument à se qualifier pour cette Ligue des Champions, ce qui constituerait une première dans l'histoire du club. Les Bernois ne risquent-ils pas de zapper le rendez-vous de samedi? Ils seront également dépensés beaucoup d'énergie mercredi, des titulaires seront peut-être ménagés. Trois questions en une, alors est-ce que vous avez le sentiment que les Bernois vont d'abord peut-être un peu zapper cette rencontre?
Alors, c'est peut-être ce qu'on peut se dire hein, pour se rassurer. Hein, Michel de Castel ne s'en est d'ailleurs pas caché hein, cet après-midi. Disons, espérer qu'ils aient déjà la tête à Zagreb, même si de leur côté, hein, les joueurs d'IB vous diront qu'ils prennent match après match, que ce sont des professionnels, hein, qu'ils ont un titre à défendre, auquel ils tiennent mordicus, etc. À ce sujet, Steve von Bergen, avec qui j'ai pu parler hier, l'a avoué hein, au réveil, les joueurs pensent à Zagreb. Et à quelque part, eh ben, c'est normal. Hein, Young Boys a pour objectif d'accéder à la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. C'est un rêve, hein, comme l'a également souligné von Bergen, qui ne l'a jamais joué. Et la plus grosse difficulté pour les joueurs bernois, bah, ça sera de faire abstraction de ce match, retour de barrage de Ligue des Champions. Peut-être plus facile à dire qu'à faire. On sait les enjeux, hein, notamment financiers, mais aussi sportifs, de par la vitrine qu'offre une participation à la Ligue des Champions.
On pourrait se dire aussi, Jean-Paul, que des titulaires vont être ménagés, mais la profondeur du banc du côté de Young Boys est bel et bien là.
Ah ouais, ça c'est tout à fait envisageable, hein. C'est même très probable, je dirais que certains titulaires ne jouent pas. En ce moment, les joueurs d'IB ne s'entraînent d'ailleurs plus beaucoup, hein. C'est de la récupération à fond, et il faut tout miser pour avoir les meilleurs joueurs au meilleur de leur forme mardi prochain à Zagreb. Mais Young Boys ne se résume pas à 11 bons joueurs, hein. Les remplaçants sont de qualité, hein. Alors en vrac, peut-être Jean-Pierre Nsamé, Jordan Lotomba, Thorsten Schick, qui est arrivé cet été en provenance de Thun. Bref, il y a du beau monde, et même avec une équipe B, j'ai envie de dire que ça reste peut-être meilleur que Xamax sur le papier.
On en vient à Xamax quand même, qui s'est qualifié par la petite porte aussi pour les 16e de finale de la Coupe de Suisse dimanche dernier contre Yverdon, mais qualifié quand même. Néanmoins, les carences défensives des protégés de Michel de Castel à cette occasion sont apparues une nouvelle fois assez criardes. Pour pallier à cela, deux défenseurs ont été engagés cette semaine, au début de semaine, Marcis Hoss et Jérémy Heugebart. Votre avis à ce propos?
Eh ben, c'est là que je trouve en fait ma source d'optimisme pour demain, car les deux nouveaux joueurs, défenseurs engagés cette semaine, sont qualifiés. Michel de Castel l'a confirmé cet après-midi. Ils s'entraînent avec l'équipe depuis mardi et mercredi et ils ont fait une bonne impression au coach. Alors il l'a dit, ce ne sont pas des stars, mais des joueurs dans nos moyens. Voilà comment il a illustré l'entraîneur des Xamaxiens. Le latéral de gauche belge, Jérémy Heugebart, n'a pas joué dernièrement, pas facile à dire, mais il est en forme et son intégration est facilitée car il parle français. Et puis quant au défenseur letton, Marcis Hoss, on rappelle, 1m91, 93 kg, Mustapha Semenovic d'ailleurs l'a décrit comme une montagne, mais qui rigole tout le temps. Alors certes, il est arrivé un peu fatigué, il a joué 6 matchs lors des 10 dernières journées, mais pour Michel de Castel, il semble optimiste, il l'a décrit comme un gagneur, un bon joueur de la tête, qui a une bonne relance, et c'est un bon type, toujours selon de Castel, qui semble donc être satisfait de sa nouvelle recrue. Et même si ces deux nouveaux joueurs manquent évidemment d'automatisme, on peut clairement imaginer qu'ils joueront d'entrée. En tout cas, Michel de Castel n'a pas dit le contraire. Il n'y a plus qu'à espérer que cette nouvelle défense, mais aussi toute l'équipe, se montre moins fébrile défensivement et exploite à fond ses opportunités offensives. C'est la seule recette possible pour ne pas rentrer de Berne-Bredouille demain.
C'est ce qu'on souhaite bien évidemment, Jean-Paul Pitchy. Merci beaucoup et bon match pour demain. C'est à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 18h45. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Cap Sport.
Et du football, on passe sans transition à la course à pied. Le Moutier Trail Marathon a lieu demain. C'est désormais le nouveau nom du marathon raid de Moutier et il n'est pas anodin parce qu'il y a justement l'appellation de trail. Et oui, en marge de la manifestation prévotoise, on se penche sur une tendance qui ne cesse de grandir, celle des compétitions de trail, justement, hors des grandes villes et des sentiers battus, en pleine nature. Activité anecdotique, il y a de cela un demi-siècle, la course à pied a succédé aux marches populaires. Elle s'est profilée en différents formats. Les marathons urbains ont tenu la corde et il y a donc désormais ces fameux trails. Pour en parler, Patrick Christina, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous a organisé l'année dernière au Val de Travers la première édition du Swiss Canyon Trail sur plus de 100 km. Cet événement s'inscrivait dans le prolongement du Trail de l'Absinthe qui ne comprenait entre guillemets qu'une septantaine de malheureux kilomètres. La première édition du Trail de l'Absinthe a eu lieu en 1996 et à ce propos justement, vous figurez parmi les précurseurs. Pour quelles raisons tout à coup se lancer dans l'initiative, dans l'organisation d'une épreuve de cette envergure?
Alors je crois qu'il y a, 25 ans en arrière, il y avait déjà la possibilité de faire découvrir le canton de Châtel, faire découvrir le Val de Travers. Et puis en tant que sportif à cette époque-là, c'était la note précurseur à ce niveau-là. Il est clair qu'en étant dans le milieu de la course à pied dans ces années un petit peu folles, c'était à ce moment-là d'organiser un 75 km déjà quelque chose de non seulement de précurseur, mais un petit peu fou à l'époque.
Vous aviez l'impression de répondre à une demande?
Alors oui, je pense que c'était à l'époque encore une fois précurseur, parce que il y avait une demande des marathons alpins, il y avait une demande de ces courses nature, mais par contre en Europe, il y avait très peu de ces courses nature de longue distance, donc qui excédaient aux distances traditionnelles des 40, 42, 45 km. D'aller au-delà de ça, c'était déjà un petit peu de la folie.
Le trail offre une dimension différente parce que justement c'est en pleine nature, c'est ça?
Alors maintenant, avec l'esprit trail, il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr. C'est en pleine nature. On revient un petit peu dans la possibilité de faire de la marche en pleine nature dans des temps limites qui sont beaucoup plus accessibles. Donc on revient dans quelque chose qui est plus faisable, qui est atteignable pour beaucoup plus de participants. Et puis on est dans ce principe nature, exactement.
Patrick Christina, il y a deux éléments qu'on doit différencier. Il y a cet esprit trail, comme vous le dites, et puis aussi la longueur de ces compétitions, qui sont d'ailleurs toujours plus longues. On se demande si c'est raisonnable. Alors, l'esprit trail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu moins l'esprit de compétition. L'essentiel, c'est peut-être de se dépasser soi-même. Le temps n'a pas une importance absolue?
Oui, alors tout à fait. On a justement, de par l'historique, passé un petit peu dans l'axe des marathons alpins, là où le temps et puis les barrières horaires étaient très très justes, c'est-à-dire on exigeait des coureurs d'avoir un rythme de course à pied pour faire du 42 km avec 800 ou 1000 mètres de dénivelé, à des courses dites trail, c'est-à-dire, comme son nom l'indique en anglais, c'est vraiment de la marche dans des sentiers battus, en pleine nature, dans lequel, eh bien, les barrières horaires ont été beaucoup plus généreuses et permettent aujourd'hui aux différents participants de ne plus calquer sur un chrono, mais bien de calquer sur une course de A jusqu'à Z, c'est-à-dire simplement de vouloir participer à un événement et d'arriver jusqu'au bout. Donc, on n'a plus cette pression de temps.
Il y a quand même la volonté de dépassement de soi parce que ces trails sont de plus en plus longs, plus de 100 km pour le vôtre, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Oui, tout à fait. Il y a le Tour des Géants d'ici une semaine et demie qui va se faire en Italie. C'est 330 km en individuel sur 5 ou 6 jours. Voilà, donc c'est des courses, mais c'est des marches aussi. Il ne faut quand même pas se le cacher. Les coureurs, le 80% des coureurs sur des courses aussi longues font l'événement en marchant. Il n'y a vraiment que les 5 ou 10% des premiers qui vont faire la moitié du parcours en courant. Donc voilà, après maintenant, cette philosophie, je pense qu'elle est aussi intéressante, elle est aussi saine, parce que les coureurs ne forcent pas sur la machine, vont forcer sur de l'endurance, oui, mais au niveau cardiaque, au niveau même musculaire ou autre, eh bien on est quand même toujours dans une mobilité dite douce, malgré le fait qu'on monte, qu'on a des dénivelés aussi bien en montée qu'en descente relativement importants.
Enfin, une mobilité douce qui dure quand même, parce que c'est plusieurs heures d'effort, ça paraît raisonnable.
Bah écoutez, pour l'avoir vécu, l'avoir fait, la longueur de l'événement en fait quelque chose d'important, de coriace. Après, l'intensité de l'événement, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. C'est plutôt d'avoir la tête et la motivation d'aller le plus loin possible quand son corps le permet. Donc ça, c'est la première des choses. On n'est plus vraiment dans cet esprit où ça fait mal du début à la fin.
De votre côté, Patrick Christina, vous organiserez plutôt l'année prochaine la deuxième édition du Swiss Canyon Trail. Comment se profile cette manifestation?
Se profile très très bien. On a beaucoup d'avis positifs suite à la première édition, donc un réel engouement. Il y a un très fort engouement neuchâtelois, parce que beaucoup de personnes croisées qui ont fait cette année les 25 km ont des vues pour aller côtoyer dans les 3, 4, 5 prochaines années le 50 km, le 80 km et tout soudain le 110 km. Vraiment de très 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 bonnes sensations par rapport à ça, malgré des calendriers surchargés.
Des calendriers surchargés, parce qu'il y a multiplication de ce genre de courses.
Oui, alors tout à fait. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on voit qu'il y a multiplication, notamment de par les régions, puisque beaucoup d'offices de tourisme, beaucoup de tourisme de différentes régions organisent eux-mêmes des événements pour faire découvrir les différentes régions, aussi bien d'après-ski, des régions alpines, valaisannes notamment, et puis autrement les régions périphériques pour faire découvrir les régions dans lesquelles on habite.
Comme le Val de Travers, par exemple.
Par exemple.
Patrick Christina, merci beaucoup. Et dans l'attente de vivre le second Swiss Canyon Trail en juin 2019, place donc demain au Moutier Trail Marathon. Au revoir, Patrick.
Au revoir, merci.